Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous, bienvenue, nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo. Aujourd'hui, c'est Adrien qui vous parle, puisque après quelques semaines, Ben avait repris de droit son fauteuil de présentateur. Je ressors du banc pour cet épisode, donc 210, un épisode qui a été teasé par Ben dans l'épisode de la semaine dernière. Mais d'abord, il faut accueillir l'équipe du jour, la team expérience de Dunk Hebdo, d'après le chef lui-même. Et on commence avec l'expérience des arcades de l'NBA, bien sûr, pas seulement, mais aussi une expertise du terrain. Malgré des drafts parfois douteuses, c'est Tom, bien sûr. Ça va, Tom ?
Ça va, et toi ?
Eh ben, ça va
content
très bien.
Content de vous retrouver, les gars.
Ouais, ben, la même chose. J'allais dire exactement la même chose. Et l'autre membre de l'expérience, de l'équipe expérience, c'est l'expérience de l'histoire, la sagesse, mais aussi les talents de Père Castor, parce qu'on va rester aller dans les références pour vieux chez Dunk Hebdo. C'est Ilias qui est avec nous. Ça va, Ilias ?
Salut, les gars. Bah, écoutez, ça va plutôt bien et ravi de vous retrouver.
Eh bien messieurs, ravi donc de vous retrouver pour parler d'un sujet qui est finalement peu abordé. On en parlait là entre nous chez les commentateurs de la Grande Ligue, mais c'est un sujet qui revient un peu entre nous dans nos conversations. Donc Ben l'avait teasé la semaine dernière, on va parler des Finals de 2016. Alors évidemment, du résultat, de la manière, mais pas que, on va aussi parler des conséquences de ces Finals sur la NBA telle qu'on la connaît maintenant. Et il y en a plusieurs des conséquences, donc on va y aller sans plus tarder. C'est l'épisode 210 de Dunk Hebdo, les conséquences des Finals 2016. Et c'est parti. Les Finals 2016, donc, le titre de LeBron à Cleveland, bien sûr, Warriors blew a 3-1 lead, on connaît bien sûr tous le récit principal, mais comme je le disais dans l'intro, ces Finals ont eu plusieurs conséquences sur la NBA, que ce soit les joueurs, les équipes, la ligue dans son ensemble. Donc, messieurs, moi je vous propose de commencer par le petit bout de la lorgnette, avant de prendre un peu de recul, on va commencer par le personnage central, le personnage principal des Finals, monsieur LeBron James, bien sûr. LeBron, donc, qui après son escapade du côté de Miami, est revenu à Cleveland l'année précédente. Il avait échoué en Finals. Il vient cette fois prendre sa revanche. Je vais éviter de monopoliser la parole. Donc, pour commencer autour de l'histoire de monsieur LeBron James, Ilias, du coup, qu'est-ce qui change ce titre ? Dans quel contexte il arrive, etc. Remets-nous dans le contexte.
Bah, disons que sur un plan purement historique, on va dire que ce titre a permis à LeBron déjà de se réconcilier avec lui-même, ainsi qu'avec sa franchise de son état, en fait, de l'état pour lequel il avait été drafté et à qui il avait fait la promesse un jour de ramener un titre. C'était lors, en fait, de la remise de son premier titre de MVP lors de son premier passage à Cleveland. C'est une promesse qui, dans un premier temps, il n'avait pas réussi à tenir pour des raisons assez diverses. Disons que la carrière de LeBron, elle a on va dire, progresser un petit peu trop vite. Il n'a pas eu, par exemple, il n'a pas pu bénéficier de la construction d'une équipe comme les Warriors ou comme le Thunder, dont on va aussi peut-être parler un petit peu plus tard. Disons qu'il a été un petit peu trop fort, trop vite, et dans une conférence Est qui était peut-être un peu trop à sa merci. Raison pour laquelle il s'est cassé souvent les dents sur des équipes un petit peu plus expérimentées comme les Pistons ou les Celtics du Big Three, voire même du Big Four, si on doit y ajouter Rondo. Et il a dû donc, dans un premier temps, aller se faire les dents du côté de South Beach avec ses potes Wade et Bosch, pour ensuite revenir et on va dire accomplir sa mission. Et de quelle manière ? Parce que ça a été fait de façon assez dantesque. Et disons que ce titre, sur donc le plan de l'histoire et des classements que les gens et les médias aiment bien faire, ou voire même les fans, il a propulsé plus ou moins LeBron à un niveau que moi je qualifierais, on va dire, à côté à peu près de Jordan et Karim Abdul-Jabbar. C'est-à-dire que s'il n'avait pas gagné ce titre, moi, je ne sais même pas si je l'aurais eu top 5. Mais en tout cas, disons que ce titre, il a changé énormément de choses pour lui, parce que c'est pas un titre qui vaut comme n'importe quel autre titre. Il a énormément de conséquences et la manière dont il a été acquis est aussi quelque chose qui forcément le fait grimper dans la hiérarchie historique.
La manière et la dramaturgie en plus des finales en elles-mêmes qui rajoutent à ça. Justement, ouais, comme tu disais, c'est un peu la période donc avec The Last Dance qui est sorti il n'y a pas très longtemps, où on parle donc des legacy des grands joueurs et où on aime parfois dévaloriser certains titres. On y reviendra peut-être d'ailleurs avec un ancien membre du Thunder que tu évoquais tout à l'heure. Celui-là, il est... Enfin, comment dire, il est acquis à LeBron James et personne ne pourra jamais lui enlever, Tom. Je pense que t'es d'accord avec ça, quoi.
Ouais, en fait, c'est un titre qui part tout l'historique et tout ce qu'il y a autour, en fait. La manière, en fait, de ce titre-là, t'as l'impression que ce serait l'équivalent de trois titres chez d'autres franchises. Il faut savoir que les Cleveland, en fait, c'est une franchise qui est assez, entre guillemets, maudite dans l'histoire du sport américain. Où, voilà, quand ils ont gagné, ça faisait plus de 50 ans qu'ils n'avaient rien gagné à Cleveland dans aucun des sports majeurs américains. Donc, du coup, enfin, ce titre-là. Il résonne vraiment pour l'État. Enfin, c'est limite, en fait, plus que pour LeBron James, t'avais l'impression que les gens, en fait, voulaient, en fait, que ça arrive avec cette équipe-là. C'est même pas qu'ils voulaient voir les Warriors les Warriors avec le record historique pour qu'ils ne passeraient pas, du coup, les Bulls, puisque la saison régulière, entre guillemets, ne compte pas dans les legacy, comme on dit. C'est même pas ça, c'est que les gens voulaient voir ce Cleveland-là avec LeBron James. Un patron gagné en étant mené 3-1. En plus, il y a même d'ailleurs une pub de Nike que je vois souvent en fait là-dessus où voilà, la pub commence par l'interview qui dit personne n'est jamais remonté de 3-1 quoi en finale NBA. Et ça en fait, c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans on va dire dans l'histoire et je pense que c'est vu tout le contexte historique autour de cette finale là, en fait, c'est un game 7 à l'extérieur, face à l'équipe qui a le meilleur record, le meilleur bilan en fait de l'histoire en saison régulière, et LeBron arrive à sortir une performance incroyable quoi.
Et puis en plus le game 7, il y a je crois, je sais pas, 10 changements de lead, je crois, dans la deuxième mi-temps. Enfin, c'est un truc de fou. Il y a vraiment la finale en elle-même, en plus, rajoute à l'euphorie du résultat final.
Parce qu'en fait, LeBron, t'as l'impression qu'en fait, il est pas à son pic. C'est-à-dire que quand tu compares ce LeBron-là au LeBron qu'on a vu à Miami, c'est pas le même LeBron, mais l'impression de domination qu'il a eu à partir du match 4, c'est incroyable. C'est incroyable. Et je pense que, je pense que ça va rester pour longtemps l'un des plus gros runs de 4 matchs dans l'histoire des finales NBA, ce qu'il a fait, hein, LeBron.
Ah bah clairement, mais moi je vais rejoindre un peu ce que disait Elias tout à l'heure. Moi, avant ce titre-là, j'avais un peu cette tendance aussi, en tant que fan de Chicago, qui était un peu accentué forcément, mais à dévaloriser un peu ce que faisait LeBron James. Moi, à la suite de cette finale, je me souviens, fin du Game 7, je me dis « bon bah c'est bon ». LeBron James est dans le Panthéon et plus jamais, un adage que je répète souvent... quand on a fait nos previews aussi également, c'est plus jamais je parie contre LeBron James. Alors, le niveau individuel, la maîtrise de ce gars, parce qu'en plus, tout au long des playoffs, on a vu les Warriors, puis de la saison régulière, qui mettaient des coups de collier en début de troisième quart-temps en général, en tout cas au milieu de la deuxième mi-temps, où ils prenaient tout une avance et t'avais l'impression que c'était irrattrapable. Et là, il répondait coup sur coup et t'avais l'impression que c'était LeBron James qui répondait. Alors, il n'est pas tout seul, évidemment, mais vraiment que c'était lui qui gardait la maîtrise et qui emmenait son équipe avec lui pour ne pas se laisser distancer jusqu'à... battre finalement les Warriors quoi.
Et puis cette finale là aussi, même sur le point du jeu en fait, notamment avec la notion de switch. Alors oui, effectivement, LeBron, s'ils n'avaient pas gagné, tu vois, déjà qu'il y avait pas mal de choses par rapport au fait que voilà, Blatt avait été viré l'année d'avant, qu'il était vu comme un largement meilleur coach que Tyronn Lue, qu'on disait que c'était LeBron qui faisait l'équipe, que c'était le GM, que c'était. Enfin, il y avait eu plein de décisions, le contrat de Tristan Thompson. Il y a vraiment eu pas mal de choses en amont de ce titre-là, tu vois, toutes les discussions qui ont traîné autour de la prolongation de J.R. Smith. Il y a vraiment eu énormément de choses, en fait. Et tout ça, ça a été validé, en fait. On a oublié toute la partie négative pour se concentrer sur la victoire et les moments iconiques du match, notamment ce bloc de LeBron qui est pour moi son action signature, tu vois, c'est limite si tu dois faire une statue de LeBron, ce serait en fait lui en train de contrer en train de faire le chase-down block quoi sur Iguodala.
Exactement, ouais.
Ah, ça me choquerait pas en effet, mais c'est sûr que c'était un titre iconique qui symbolisera, je pense, jusqu'au bout, en fait, la carrière de LeBron, quand on se rappellera, enfin, on verra ce qu'il adviendra, parce que Los Angeles a un pouvoir médiatique assez fort également, donc on verra si jamais, mais, Mais vraiment, comme tu disais, Ilias, le côté il y allait tout seul, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il allait chez lui sans rejoindre des stars. Alors, il y avait Kyrie Irving, mais qui n'avait pas non plus l'aura qu'il a maintenant. Et peut-être d'ailleurs que du coup, on peut parler aussi du changement que ce titre a eu sur Kyrie Irving. Parce que Kyrie Irving, avant l'arrivée de LeBron, bon, c'est un très bon joueur, tout le monde voit, spectaculaire, ses dribbles, on ne va pas rappeler évidemment l'esthétique du jeu de Kyrie. Mais il emmène Cleveland nulle part et il est vu comme un scoreur dans le vent, entre guillemets, comme certains en souffrent de cette image-là, évidemment. Et là, avec ce titre et puis 2-3 tirs, parce que c'est avant le bloc qu'il met un 3 points.
Non, c'est après.
C'est juste après. Après. C'est juste après, oui, pardon. C'est juste après. Mais voilà, il met ce shoot-là.
En fait, il a plus un panier pendant à peu près 4 minutes.
Ouais,
voilà.
C'est suffocant comme pas possible.
C'est vraiment, enfin, j'imagine même pas la température et la tension dans la salle. D'autant qu'elle était en très grande majorité, vu que c'était à Golden State, peuplée de fans des Warriors, mais j'imagine même pas la tension cardiaque des gens présents ce jour-là. Déjà que moi, et je pense que c'est exactement la même chose pour vous, ou que ce soit les gens de la team Dunk Hebdo ou pour n'importe quel fan de basket, moi j'en ai été amené à vraiment oublier tout ce qui se passait autour de moi. Je me rappelle même que je passe les 5 dernières minutes, c'est-à-dire même plus assis, je suis debout. à deux doigts de réveiller ma fille, mes voisins, enfin, c'était un moment véritablement qui m'a marqué en tant que fan. Et donc à ce moment-là, il ne se passe plus rien dans la salle, c'est-à-dire que t'as l'impression que c'est deux boxeurs face à face qui ont plus une goutte d'énergie, et en fait ça va être à celui qui portera les stockades, en fait. Elle s'est fait un peu de façon double, sachant que le score était à égalité. Dans un premier temps, il fallait que LeBron stoppe Iguodala, parce que forcément ça aurait donné un espèce de momentum aux Warriors. Et
à moi, ce moment-là, j'ai l'impression qu'il y a game, hein, quand Iguodala part en contre-attaque.
Ah oui, non, mais clairement. Mais de toute façon, ce panier aurait tout changé. On peut dire ce qu'on veut, vu ce qui se passait et le fait qu'il ne se passait plus rien depuis 4 minutes au niveau du scoring, ce panier aurait pu changer et être déterminant pour sacrer les Warriors. Et il a fallu donc le contre de LeBron, sachant qu'il avait un retard. Je sais pas, t'avais l'impression que le mec, il était limite dans les vestiaires au moment où Iguodala et Curry partent en contre-attaque. Et il arrive, drapé en plus dans son espèce de maillot noir. T'as l'impression de voir une espèce de Batman qui surgit de nulle part pour aller scotcher ça sur la planche. Et après, juste après le temps mort, le 3 points de Kyrie, bah c'est... Mais on peut même pas dire que ça scelle le match, parce qu'il se passe encore des choses après, peut-être qu'on
ouais,
on abordera.
Manqué, même le dunk manqué de LeBron juste après, là.
Ah, c'est fou.
C'est incroyable. S'il met ce dunk-là, au final, tu oublies le The Block. Hein.
Ah, oui.
c'est ça son acte signature. Et puis bon, il est bien aidé aussi sur son retour défensif par l'effort de J.R. Smith. J.R. Smith qui est souvent critiqué par ses mauvais choix, et qui est aussi célèbre pour des finales après, qui sont venues après, par rapport au fait qu'il n'ait pas regardé l'horloge. Mais là, à ce moment-là, tu vois, il gêne bien Iguodala pour retarder au maximum le moment où il peut commencer son layup, tu vois, où il doit l'éviter, Iguodala, pour lancer son layup. Et ça permet aussi à LeBron James de lui arriver à pleine vitesse et de pouvoir contrer le tir.
En fait, c'est
un de ces matchs, en fait, où la tension est à son comble, et c'est un de ces matchs dans l'histoire de la NBA, je pense, mais même dans ton histoire de fan de la NBA, où tu te souviens forcément ce que tu faisais, où tu étais à ce moment-là, en fait.
Exactement.
Tellement ce match-là, en fait, il a marqué de son empreinte l'histoire de la NBA. Je n'ai pas le souvenir, en fait, d'avoir vécu une finale NBA où il y avait autant d'enjeux et où il y avait autant de tensions, en fait, personnellement.
C'est ça.
Ah ouais, parce qu'en plus, il y a le Game 7 qui ajoute au truc. Parce que moi, je me souviens que le shoot de Ray Allen est quand même assez, assez marquant, quand même, récemment. Mais
c'est
un Game 6, quoi.
Exactement.
Donc,
disons que là,
ça fait pas le même effet.
Il y avait Tom parlait d'enjeux juste avant concernant cette finale, et je crois que si on se reporte à 4 années en arrière, on sera tous plus ou moins unanimes pour dire que Steph Curry était en train, entre guillemets, de prendre le trône de LeBron. On ne parlait que de Curry, oui. et à juste titre, parce que pendant cette saison 2016, il fait une saison encore plus impressionnante que la précédente, où il est déjà MVP. Il fait une saison, mais vraiment tonitruante, au point de devenir le premier MVP unanime de l'histoire, même si LeBron aurait pu l'être aussi en 2013, mais à cause d'un journaliste de New York qui avait préféré voter pour Melo, ça n'avait pas pu arriver. Mais disons que c'était très très important aussi. Tu avais un duel dans le duel, tu avais forcément l'opposition entre les Cavs et les Warriors qui se réaffrontaient un an après, après les fameuses blessures de Kevin Love et Kyrie Irving l'année d'avant, mais cette fois-ci dans un contexte où ils sont encore plus matures, ils sont encore plus huilés, et surtout, ils sont en passe de devenir, s'ils gagnent cette finale, s'ils valident le titre, en passe de devenir la meilleure équipe de tous les temps. Après avoir battu le record des Bulls de
73-9.
Voilà, exactement. Et s'ils valident avec ce titre-là, ils sont sans aucun doute la meilleure équipe de l'histoire. Et le fait que LeBron ait été à l'origine, lui et ses Cavs, bien évidemment, parce que Kyrie Irving a été monumental aussi pendant la dernière ligne droite de cette finale, le fait d'avoir été l'acteur principal du fait que les Warriors n'aient pas pu être la meilleure équipe de tous les temps, ça joue aussi pour la carrière et la legacy de LeBron. Il a empêché quelque chose qui, au final, paraissait inéluctable, et il l'a fait en étant plus que dos au mur. C'est-à-dire qu'il a dû faire quelque chose qui n'avait jamais été vu dans l'histoire de la NBA et qui peut-être ne se reverra plus.
Effectivement. Donc ouais, il y a cette conséquence sur les Warriors aussi. Voilà, on peut en parler un peu plus longuement de ce que tu disais. C'est genre, donc ils sortent à 73-9 de cette saison-là. Donc moi, je l'ai mauvaise en tant que fan des Bulls, forcément. Ils vont sûrement arracher ce titre de meilleure équipe de tous les temps. Et cette finale va du coup changer aussi toute la dynamique de ces Warriors autour de Curry, Thompson, Green, avec les vétérans, Iguodala, Sean Livingston notamment. Mais suite à cette finale, ça va aussi, eux, changer toute leur histoire, parce qu'ils vont vouloir se renforcer après cet échec qui est, comme tu disais, comme c'est un, comment dire, quelque chose qui n'avait jamais été fait en finale. Donc c'est magnifique pour LeBron, pour les Cavs, etc. Mais c'est d'autant plus violent pour les Warriors, qui, au-delà d'en plus de ne pas valider leur saison, perdent. Et comme je disais en intro, Warriors blew a 3-1 lead, c'est quelque chose qui revient encore, on en parle encore maintenant. Et ils vont avoir la volonté d'effacer ça derrière.
C'est ça, enfin, on en oublie même que ces Warriors-là, en fait, ils sont revenus de 3-1 contre le Thunder le tour d'avant, quoi.
C'est ça.
Ils l'ont fait. On en oublie. Parce qu'en fait, ce match-là, en fait, ce match 7 des finales, il vient clôturer des playoffs monumentaux, quoi. T'as au premier tour San Antonio qui est la deuxième équipe de la saison régulière derrière les Warriors qui se fait taper par OKC. OKC, après, qui mène face aux Warriors et qui t'as la blessure de Curry là qui glisse sur la flaque de sueur de Mote Yunas qui se pète le genou. Après t'as ils arrivent face aux Warriors, pas Warriors, face au Thunder, t'as le Clay Game, et après on en arrive là où les playoffs sont allés crescendo, quoi. À chaque série on se disait, mais est-ce qu'on pourra avoir plus que ça? Et à chaque fois, on avait plus, jusqu'à vraiment l'apothéose du Game 7, quoi. Et c'est là où je trouve que les Warriors sont la meilleure équipe sur le papier. Mais en fait, à partir du moment où les Cavs gagnent le match 5, tu te dis, OK, ils ont une chance de gagner le titre. À partir du moment où...
À 3-2.
À partir du moment où ils arrivent à 3-2, tu te dis pas, ouais, OK, de toute façon, les Warriors vont finir à la maison. Tu te dis, les Cavs peuvent gagner le titre. Et ils l'ont fait.
Ah bah ça ajoute de l'importance à la suspension de Draymond Green. Hein. C'est un point, le point pivot de cette finale, pratiquement, il est là. Hein. Parce que donc, au moment de... Donc c'est le game 4, ouais. Je crois, c'est au game 4, voilà, où les Warriors sont, je crois, à plus 10 à ce moment-là, où Draymond, qui se retrouve par terre, se relève et fait un geste à la Draymond, quoi.
Ouais.
Envers le King, et prend donc là un match de suspension.
En fait, il prend la technique. C'est la technique, en fait, qui le suspend. C'est la technique supplémentaire qui le suspend, puisqu'il avait déjà fait le même type de geste sur Steven Adams. Il avait pris une technique et son nombre de techniques était monté au niveau ultime où la prochaine technique le suspendait automatiquement. Et il prend une technique à la con.
C'est ça, une technique qui n'a pas lieu d'être. Ouais. À plus 10, tu vas arriver à 3-1, t'es tranquille. Il n'est pas là pour ce fameux match qui ramène à 3-2. Et effectivement, ce match, tu te dis, ils ont une chance, les Cavs. Et s'ils le font, tout est relancé, quoi. Et tout est relancé, du coup, comme tu disais.
Un truc encore avec ça, qui peut jouer aussi sur le côté legacy, même des Warriors, c'est qu'en fait, ça a mis un peu à mal leur système de jeu, puisque Cleveland les a battus sur de la défense.
Exactement.
Les Cavs les ont battus sur de la défense,
notamment en mettant sur les en
place.
switch.
C'est ça, en mettant en place du switch. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que les Warriors, c'est Curry qui était à la base de la création du jeu. Et en fait, quand avec Draymond Green en relais, le truc, c'est que à partir du moment où, enfin, Curry, il était beaucoup moins explosif, en fait, au retour de sa petite blessure au genou, il était moins explosif. Et du coup, quand tu regardes en saison régulière ce qu'il arrivait à faire quand il switchait sur les grands et ce qu'il arrivait à faire en playoff, bah, c'était pas, t'as pas l'impression que c'était le même Curry. Là où, quand il switchait sur les grands, il essayait souvent d'aller au cercle, il essayait de les cuisiner, créer un décalage pour quelqu'un d'autre. Ben là, en fait, t'avais l'impression que lui, il essayait juste de créer de la séparation pour pouvoir shooter au lieu de prendre les joueurs de vitesse.
Et d'ailleurs, c'est symbolisé tout à fait ce que tu dis, Tom. Je te coupe, mais c'est symbolisé justement par une de ses dernières actions de ce game set, c'est-à-dire être face à Kevin Love et il a l'occasion de driver. On parle souvent du fait que Kevin Love l'a stoppé, mais je pense qu'il suffit que Curry drive et pour s'en aller au cercle et au moins obtenir deux lancers francs. Mais tu t'aperçois en fait qu'il hésite, il hésite, il hésite. Dans un premier temps, il donne la balle à Draymond. Draymond lui rend. Je me permets en fait d'être aussi précis parce que en bon élève, je me suis refait le match. Et en fait, tu t'aperçois qu'il peut aller au cercle, mais qu'il ne le fait pas. Et finalement, bah, il décide de prendre un shoot, on va dire, assez casse-croûte qui rebondit sur le cercle et qui finit dans les bras de LeBron. C'est vrai. Tout à fait.
Mais en fait, c'est pour ça en fait qui ça a validé en fait la stratégie défensive notamment de Cleveland de faire des suites. On a vu que les Rockets ont adopté cette stratégie là après, mais bon, il y avait Kevin Durant, donc enfin ça marche différemment puisque en fait t'avais pas de valve de décompression derrière Stephen Curry, puisqu'en fait ce qui se passait, c'est que globalement, enfin, Draymond Green qui fait un excellent match 7. Alors c'est un match 7 qui passe sous silence parce qu'il perd
une première mi-temps incroyable.
Son match 7, il est dantesque. Et en fait, globalement, toute le fait de switcher, ça forçait en fait, le fait de que les Warriors ne puissent pas abuser les switches en fait offensivement, ben ça remettait une partie de la création notamment sur Draymond Green, sauf que Draymond Green devait se coltiner LeBron de l'autre côté, et du coup, ben il a fait très bien en première mi-temps, mais au fur et à mesure du match, ben tu sens qu'il en a un petit peu moins en fait, et ça a bloqué toute l'attaque. Et quand au moment en fait les Warriors ils passent presque 4 minutes sans marquer un panier. Alors oui, ils ont des opportunités. Tu as pas mal de shoots qui passent pas loin. Tu as des shoots qui peuvent rentrer, des shoots qui mettent habituellement, mais qui rentrent pas. Mais ils sont bloqués. Ils sont littéralement bloqués avec des gros passages de Richardson, notamment sur Livingston. Enfin, tu as vraiment tous les mecs des caves. En fait, tu as l'impression que tous les joueurs des caves, ils sont à leur pic en fait.
Tristan Thompson est énorme.
On parlait
justement des switches et de la capacité à switcher et de défendre. Tristan Thompson, c'est pas un joueur qui a véritablement apporté quoi que ce soit sur cette finale offensivement, même s'il a eu quelques petites perfs. Mais alors défensivement, mais de toute façon, on sait que c'est ça qu'il faut pour pouvoir aller au titre. Il faut toujours une base de deux joueurs à peu près au minimum majeurs autour desquels il faut une certaine base de soldats qui vont justement faire le travail de l'ombre, le travail de défense, de switch, d'adaptation, que ce soit en attaque, en défense, enfin ce qu'on appelle des facilitateurs. Et tout ça, on va dire que la garde de Kyrie et LeBron l'a fait à la perfection. Même Kevin Love, qui n'apportait plus grand-chose et qui avait même été absent au match d'avant, on va dire, s'est coltiné à un travail de rebondeur. Et disons que ça a fini par payer, mais c'était assez dantesque sur cette fin de série.
Ouais, Tristan Thompson, qui a cette capacité à se transcender en finals à chaque fois, qui surprend à chaque fois. Enfin,
et vraiment, face à l'enfant.
Oui, mais en fait, à chaque fois, moi, chaque saison, je me dis, bon, là, il commence à abuser. Et quand ça arrivait avec les Cavs, cette équipe a une capacité à se transcender, et notamment, je trouve, symbolisée par Tristan Thompson, justement, à devenir une menace où tu te dis, mais il peut, voilà, il commence à switch, et tu te dis, bon, il y a Tristan Thompson, toi, t'as pas peur. Le gars sera là, quoi.
Tout à fait.
Le gars sera là, il va gêner, il va mettre le compte, il va prendre le rebond si besoin. Kevin Love va prendre le rebond, parce qu'il a, ouais, comme tu disais, je crois qu'il a un pourcentage de rebond très, très haut, Kevin Love, sur cette série-là, même sur le match 7. Donc,
c'est encore incroyable. Quelque chose, même si on a tendance un petit peu à tout ramener à LeBron, mais c'est aussi un petit peu une réalité. Mais justement, c'est en ça que LeBron est très fort et est le plus fort de ces dernières années et de cette génération, c'est que au-delà du fait d'être un basketteur incroyable, c'est un leader hors pair et surtout il a une capacité de diffusion sur ses coéquipiers qui est peut-être du jamais vu en fait. Moi personnellement, je suis cette foutue ligue depuis tellement d'années, j'ai jamais vu en fait, et c'est Kenny Smith qui disait ça il y a quelques années, j'ai jamais vu en fait quelqu'un faire autant avec si peu. Pas de là à dire non plus que Kevin Love et Kyrie Irving sont des faire-valoir. Non, non, on parle de All-Star, même si Kevin Love a pas réussi à passer le step que Kyrie avait pu passer avec LeBron lors de ses années à Cleveland. Mais disons qu'il y a tout un tas de joueurs qui est autour de lui et c'est pas uniquement référent à cette finale. On prend ça depuis le début de la carrière de LeBron. Ça a été ça aussi son problème. Il a emmené des équipes médiocres trop haut, trop rapidement. Et donc, pas la capacité de pouvoir drafter suffisamment haut. Toujours des pics situés entre 10 et 15 dans les débuts. Et pas de quoi véritablement construire quelque chose de marquant à Cleveland. Il a fallu qu'il parte à Miami pour que Cleveland retombe dans les bas-fonds pour pouvoir réobtenir des pics. Heureusement qu'ils ont eu Kyrie parce que le reste, ça a été du Anthony Bennett et autres, et du Dion Waiters. Mais voilà, on se rappelle que lors de son premier passage à Cleveland, c'était déjà le cas. On sait qu'il avait plus ou moins permis à des joueurs, on va dire, plus que moyens d'obtenir des contrats, que ce soit des Pavlovich, des Varejao, des JJ Hickson. On se rappelle même que Mo Williams a été All-Star à côté de LeBron James. On se rend pas compte, mais le LeBron du premier passage, il a quand même gagné lors de ses deux dernières saisons à Cleveland deux fois plus de 60 matchs.
Mais c'était illustré. C'était excuse-moi de te couper aussi, mais genre dans le podcast 209 là de la semaine dernière où on parlait des meilleures équipes non titrées de la décennie, Ben avait fait un tableau en regroupant des statistiques. Bon, je vais pas réexpliquer, allez écouter le podcast si vous voulez avoir tous les détails. Donc pour essayer de résumer quel était le profil type d'une équipe championne en NBA. Et il signifiait qu'il y avait une anomalie à chaque fois dans ces tableaux, c'est les équipes de LeBron James.
Tout à fait. Exactement.
Ce qui sur le papier ne sont pas calibrés pour un titre, mais tu ajoutes LeBron James et ça devient un contender, voire un vainqueur NBA jusqu'au
exactement.
Bout.
Exactement. Et c'est ce
voilà,
qui a pêché un petit peu.
De ce que t'es en train de dire.
Voilà, et c'est ce qui pêchait un petit peu à l'époque où LeBron était, on va dire entre guillemets, un peu trop seul. Le LeBron de 2004 à 2010, on se rappelle un petit peu sur qui il se cassait les dents, c'est-à-dire que ce soit les Celtics, les Pistons ou le Magic, de Dwight Howard. Il s'avère que jamais il n'avait à ses côtés un joueur meilleur que la deuxième option des équipes adverses. C'est-à-dire que Pierce avait Ray Allen et Kevin Garnett. Et peu importe si les Celtics avaient un bilan moins bon en saison régulière, on sait véritablement que c'est à partir des playoffs que des équipes de roublards comme ça commençaient à jouer. Tu prenais par exemple l'équipe de Dwight Howard, LeBron James n'avait pas l'équivalent d'un Edo Turkoglu ou d'un Rashard Lewis à ses côtés. Parce que justement, il avait l'habitude de produire pour beaucoup trop de joueurs, en fait. Et c'est pour ça aussi, et c'est la raison pour laquelle que dès l'instant où il partait d'une franchise, eh bien, cette franchise était amenée à totalement s'écrouler et devenir en fait une lottery team.
C'est vrai qu'il a ce truc-là aussi de quand il s'en va d'un peu laisser désertique, mais bon, ça va avec la grandeur. Pour revenir un peu aux Warriors et au reste de la ligue, parce que là, on a beaucoup focalisé sur ces finals et la conséquence sur LeBron et pour les Cavs d'une certaine mesure. Mais il se passe beaucoup de choses l'été d'après suite à ce titre-là, que ce soit donc dans l'image qu'on a des différents titres NBA. Par exemple, même dans le futur, les titres que vont avoir les Warriors ou que KD va avoir avec les Warriors, pour être plus précis, vont peut-être être dévalorisés, surtout en comparaison à ce titre-là. Donc, la question qui est toujours dans l'histoire, je reprends ce que tu disais au début, il y a sur les classements que les gens aiment bien faire à travers l'histoire des différents joueurs en focalisant beaucoup sur le titre NBA. Ça chamboule aussi un peu ça, parce qu'on va commencer à mettre des astérix comme il y en avait sur le titre des Spurs avec le lockout. Et donc la course au titre change et les Warriors eux aussi doivent chercher à effacer ça tout de suite. Alors évidemment ils vont aller gagner derrière en cherchant KD, mais c'est quelque chose qui va faire beaucoup jaser tout l'été qui suit, quoi.
Surtout qu'en fait l'arrivée de Kevin Durant, elle se fait où un moment où voilà, l'équipe vient de gagner ils ont le meilleur record, le meilleur bilan de la saison régulière de l'histoire, ils sont menés 3-1 face à une équipe et ils récupèrent limite le meilleur joueur, enfin, même pas limite, ils récupèrent
mais
le
pas
meilleur
limite, hein.
joueur, ils récupèrent le meilleur joueur de la conférence Ouest par rapport à une augmentation soudaine en fait du salary cap. Et en fait, en gros, ils remplacent Harrison Barnes par Kevin Durant.
C'est scandaleux.
Et par ce mouvement-là, voilà, et par ce mouvement-là, t'as des signatures qui sont créées. Après, par exemple, David West, qui était un homme fort des Spurs, qui est un homme fort des Spurs, qui se ramène après dans l'équipe des Warriors. Donc, les mecs ont David West au contrat minimum pendant 2 ans, ensuite en sortie de banc.
Et qui amène des bonnes minutes, évidemment. Ouais.
Ah bah très bonne, en rapport qualité-prix, c'était totalement incommensurable. On commence à voir des gens qui baissent leur salaire pour aller venir aux Warriors, et ça paraît normal, entre guillemets, puisque bah, si KD l'a fait, tout le monde peut le faire, et on va... Enfin, il y a une espèce de chasse à la bague, pour la traduire, qui se met en place.
Et le pire dans tout ça, c'est que l'ajout de Kevin Durant... n'est pas similaire à l'ajout de n'importe quelle superstar, c'est-à-dire que dans le système des Warriors, elle fit totalement. C'est-à-dire que voilà, Harrison Barnes, c'est rien d'autre que le KD du très 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 pauvre. vraiment, ouais, là, on parle de l'ajout du joueur qui était de toute façon le meilleur joueur au monde derrière LeBron James, malgré la saison que Steph Curry venait de faire. Enfin, c'est ce qui existait plus ou moins dans la conscience de beaucoup d'observateurs, même si Curry sortait d'une saison fantastique et de finale un peu moins bonne. Mais moi, personnellement, il y a quand même quelque chose d'un petit peu tragique et dramatique à ce qui s'est passé lors de ces playoffs 2016 pour Kevin Durant, parce que c'est un joueur fantastique qui a, à mon avis, qui n'atteindra pas la place qu'il aurait dû atteindre dans l'histoire, pour la simple et bonne raison que lors de la fin de série face aux Warriors avec son pote Westbrook, en fait, Kevin Durant est passé en fait à côté de son histoire.
Oui, il a
vraiment raté son rendez-vous avec l'histoire, parce que en fait, on savait déjà, et ça découlait de plusieurs interviews, dont notamment une dans Sports Illustrated où Durant justement ciblait le fait d'en avoir marre d'être toujours le second. Il était déjà le second au lycée, le second à l'université. Il a été le second à être piqué derrière Greg Oden à la draft. Et on sait que dans la conscience des gens, quoi qu'il arrive, LeBron était intouchable. Et en fait, lui et LeBron James se retrouvent opposés à la même opposition cette année-là. C'est-à-dire que si on transpose, c'est-à-dire que Kevin Durant se retrouve dans la peau de celui qui mène 3-1 face aux Warriors en finale de conférence et qui gaspille cette chance rêvée donc d'aller affronter LeBron et pourquoi pas le battre et peut-être donc faire dégringoler LeBron, pourquoi pas, sur l'échelle historique, et lui permettre justement d'avancer ses pions et d'augmenter, on va dire, ses chances d'intégrer le top 10 en gagnant en plus un titre pour une franchise, je dirais pas aussi maudite que les Cavs, parce qu'elle existe depuis moins longtemps, mais gagner un titre à OKC, ce n'est pas en gagner deux avec les Warriors de Steph Curry, et ça tout le monde le sait. Et donc il se retrouve dans cette position là de mener 3-1 face aux Warriors, finalement il gaspille cette occasion, et LeBron James, la personne qu'il essaye d'atteindre, c'est-à-dire l'alter ego, il essaye, en fait, LeBron James se retrouve dans la position, face à cette même équipe, à un stage, c'est-à-dire à une étape supérieure en finale NBA, cette fois-ci se retrouve mené 3-1 et il gagne le titre. À partir de ce moment-là, on savait déjà que KD ne pourrait pas combler son retard, et malgré ça, il a fait un choix qui, malgré les deux titres qui ont suivi, ne lui ont toujours pas permis d'avancer sur le plan historique. C'est dramatique ce qui se passe pour Kevin Durant à partir de ce moment-là.
Ouais, ta mise en opposition, en image miroir des deux situations est hyper parlante. Effectivement, c'est vrai qu'il passe à rien à une victoire d'aller pouvoir en plus
ça aurait tout changé.
Impacter son duel face à LeBron. C'est-à-dire que là, il y assiste dans sa chaise comme nous, quoi.
Et je suis d'accord avec Pierre qui, la semaine dernière, disait qu'il aurait été fort probable, en tout cas ça aurait pas été une surprise de voir OKC gagner, parce que match-up, disons que ça aurait été très 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 compliqué pour les Cavs. Disons que imposer le combat physique que les Cavs ont fait endurer en fait aux Warriors pendant la fin de série, je sais pas s'ils auraient pu le faire face au Thunder.
Clairement, puis la galvanisation qu'aurait eu cette équipe du Thunder, qui a quand même des fortes têtes, qui ont besoin comment dire, de fuel quoi, pour se motiver, d'avoir sorti au tour d'avant l'équipe, la meilleure équipe de tous les temps en termes de saison régulière.
C'est ça.
En plus, voilà, il serait arrivé avec les crocs, je pense notamment à Westbrook, qui aurait été compliqué à tenir pour les arrières des Cavs.
C'est ça.
Alors, et ils avaient sorti des Spurs juste avant, quoi.
Ah, ça aurait été un run fantastique. Hein.
Ah, les Spurs qui n'ont pas eu de chance, hein. Je crois que c'est Pierre qui l'évoquait aussi. C'est quand même leur pire match-up, eux, le Thunder. Alors que ça aurait pu mieux se passer sur d'autres équipes, mais bon, ça fait partie du jeu. Mais du coup, oui, on a KD, mais on a aussi le reste de la free agency. Tu l'évoquais un peu, Tom. On a eu plein d'autres situations. Puis c'est à ce moment-là que le Houston aussi change son approche,
ouais.
Puisque c'est exit Dwight Howard, bonjour Ryan Anderson. Alors
c'est
je schématise parce que ça m'a fait marrer en voyant la liste des signatures de cet été-là. Mais effectivement, les gens se disent, il y a, enfin, c'est Warriors qui semblait intouchable et parti tout droit. Ils signent KD, bon, on se dit là, il y a plus rien à faire. Et pourtant, eh ben ils ont été touchés pendant ces finales-là. Ils ont été même abattus, hein, on va dire. Donc il y a quelque chose à faire et donc la NBA commence à réfléchir à là où on avait une NBA jusqu'à présent tout de même qui était à abattre LeBron. Il fallait son LeBron stopper, tout le monde voulait son LeBron stopper. Coucou à Mike Pietrus vu qu'on parlait du Magic. Voilà, là les gens commencent à essayer de chercher des méthodes pour jouer jouer ces Warriors dans les yeux en se disant il y a quelque chose à faire quoi.
Ben, en fait cette finale là en fait. Elle va créer quelque chose qui va fausser le niveau. Enfin, Ben l'a très bien évoqué lors du podcast de la semaine dernière. Elle va fausser, en fait, le niveau qu'il faut avoir pour gagner le titre. Clairement. Puisqu'à partir du moment où Kevin Durant arrive aux Warriors, d'ailleurs, enfin, à l'époque, on disait même les Warriors et Kevin Durant, tellement ça semblait irréel.
Oui, il était exclu.
Tellement ça semblait irréel.
Mais ça lui a pesé, hein, d'ailleurs, ouais. jusqu'à il y a peu, il en parle encore.
Donc tu vois, à partir du moment où Kevin Durant intègre les Warriors, bah, en fait tu sais très bien en fait que ça va être difficile ou c'est quasi impossible d'aller chercher une équipe comme ça quoi, puisque le niveau intrinsèque des mecs est énorme, le niveau de jeu est énorme, tous les gars fit et tu sais qu'en fait c'est une hydre limite à deux têtes où ils peuvent aller en finale. Juste avec, ils peuvent aller en finale avec qu'un seul des deux, quoi, tu vois.
Il y en a un qui prend feu, c'est fini, bah, voire trois. Hein.
C'est ça, tu vois, ça parle. Quand t'imagines que t'arrives avec Klay Thompson en troisième option, Draymond Green en quatrième option, t'as des gars en sortie de bon comme West, enfin, c'était une équipe qui était devenue injouable. Et limite, un moment, enfin, on avait l'impression que, enfin, quand Kevin Durant il arrive aux Warriors, tu te dis, ok, ils vont gagner quatre titres.
Ah ouais, bah, parce que tu vois pas jusqu'à ce qu'ils en aient marre et qu'ils se séparent, ça va aller au bout.
Bah, déjà, on peut commencer par se dire qu'ils en auraient gagné 3 si KD et Klay Thompson ne se blessent pas l'année dernière, par exemple.
Ouais.
C'était au minimum 3, quoi. Enfin, pour moi, enfin, dans l'immédiat, c'est tant que les Warriors restaient en forme avec cette ossature de joueurs, c'est une équipe que tu ne peux pas atteindre. C'est juste impossible. Ou alors, il faudrait que d'autres joueurs quasiment aussi forts acceptent de baisser leur salaire pour justement faire une petite entourloupe au salary cap et aller affronter cette équipe. Mais sinon, dans l'état actuel,
on a peut-être eu Kawhi aux Lakers
avec Anthony Davis et
LeBron.
Mais tu vois, c'est un truc limite un peu injuste parce que tu vois, les Cavs battent les Warriors en 2016, ils récupèrent Kevin Durant. Les Cavs perdent contre les Warriors en 2017, ils perdent Kyrie Irving.
Ouais.
Enfin, c'est terrible.
C'est vrai. Mais Kyrie Irving, qui est un peu comme KD, ce que tu évoquais tout à l'heure, qui est à la recherche lui aussi de lumière. Et donc au début, il avait besoin, donc il a eu ses titres avec LeBron, mais il est considéré comme le second, le Robin du Batman dont parlait Elias pendant tous ses titres. Et pendant tous ses titres, avec ce titre. Et derrière, il perd et il sait que même s'il regagne, tous les lauriers vont repartir, probablement à raison, à LeBron James. Et du coup, lui a besoin d'autre chose. Et c'est le même schéma que va suivre KD après la défaite là, face aux Raptors, où une fois que cette équipe perd, il faut aller chercher ailleurs parce que c'est pas ici que tu vas avoir la reconnaissance que tu cherches.
C'est ça, mais disons que c'est en ça aussi qu'il y a quelque chose d'assez tragique dans la carrière de KD et qu'on sent véritablement cette rencontre ratée avec l'histoire. C'est que malgré ce qui s'est passé en 2016, malgré ce mauvais choix des Warriors, après les titres, il est parti les chercher. Ok, il était très très bien entouré, tout ça. C'est en ça que tu vois que la carrière des fois d'un joueur peut, on va dire, totalement disjoncter sur un événement, sur une série de playoffs, sur un shoot. Enfin, le contexte en NBA est quelque chose de très 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 important, et c'est justement ce qui est important d'évaluer dans la place des différents joueurs dans l'histoire, pour se dire justement que gagner un titre, c'est une chose, mais le contexte dans lequel on gagne ce titre peut en dire long sur la suite. Disons que les deux titres, de, par exemple pour Kobe Bryant, le regretté Kobe, on sait pertinemment que dans son esprit, rien ne vaudra ces deux titres gagnés avec Gasol et Odom en lieutenant, que quand il était, par exemple, que le second de chaque. On peut dire que c'est pareil pour les observateurs. Il en va de même pour KD, qui visiblement n'a pas compris pourquoi on le considérait toujours pas comme le numéro 1, alors qu'il venait de battre LeBron deux fois en finale. Oui, tu l'as battu, mais regarde encore une fois le contexte. C'est-à-dire qu'il suffit de prendre le premier match de la finale de 2018 entre Cavs et Warriors. C'est une période où on commence à se dire que Kevin Durant est plus fort que LeBron James. Moi, personnellement, je n'ai jamais été dans cette enflammade. C'est-à-dire que moi, je ne peux pas imaginer que d'une année à une autre, il suffise un simple delta de 12 mois permette à quelqu'un de devenir meilleur que un certain joueur qui domine déjà depuis plusieurs années. Parce qu'il suffit de voir les forces en présence, du coup. LeBron James, lors du Game 1 des finales 2018, a beau planter 51 points. Je pense que vous vous rappelez tous les deux de ce match-là.
Ça aussi, c'est un match historique.
La manière dont il domine Kevin Durant, la manière dont il domine tous les Warriors, alors qu'il a pour lieutenant, George Hill et J.R. Smith, qui se sont d'ailleurs fait pas mal mettre, on va dire, en lumière sur la fin du match. Ouais. Il a beau mettre 51 points, il ne gagne pas ce match. C'est ça qui est dramatique, c'est-à-dire que Kevin Durant ne comprenne pas que sa présence aux Warriors n'impactera pas forcément son CV sur l'histoire, et quand même quelque chose d'assez incroyable.
Ironiquement, je t'en prie, je vais juste te laisser la parole, mais ironiquement quand même, quand il part pour donc rechercher sa lumière et cette reconnaissance, il va retrouver celui qui était dans l'ombre de LeBron, quoi.
C'est ça.
Pour le narratif, c'est incroyable.
Qui était parti de l'ombre de LeBron pour pouvoir s'affirmer en tant que leader. On lui propose, et on salue Alan, on lui propose peut-être la meilleure jeune garde de la ligue. En la personne des jeunes Celtics de Boston, et finalement il leur fait faux bond et il finit en fait lors d'une interview de s'excuser auprès de LeBron, parce que être un leader, c'est pas quelque chose de facile au quotidien.
Ouais, parce que Kyrie, il a toujours été drivé, parce que voilà, enfin, Kyrie, comme tu as pu le mentionner, en fait, il a connu une ascension fulgurante, hein. On parlait d'un gars qui, enfin, si on peut prendre un parallèle à ce qui se fait aujourd'hui, enfin, Kyrie, c'était limite ce qu'on dit de Zach LaVine aujourd'hui, en fait. C'est-à-dire, le mec, il score, et son équipe ne va pas beaucoup plus loin, quoi. Et en fait, à partir du moment où t'as les playoffs avec les bonhommes, puisque ce sont ses seuls playoffs vraiment aboutis, entre guillemets, Kyrie Irving à ce moment-là, puisque il a des blessures. La première année, il se blesse. Donc ouais. Là, c'est la seule année qu'il peut jouer. Après, t'as l'année d'après, mais les Warriors sont injouables. Quand on se souvient, le seul match que les Cavs arrivent à prendre, c'est indécent. C'est indécent, le seul match qu'ils arrivent à prendre.
Ils doivent taper un record à 3 points, tout à fait.
C'est ça. Et après, il a plus joué en playoff. Enfin, plus joué. La saison d'après, à Boston, sa première saison, il se blesse. Et la deuxième saison, il fait n'importe quoi face à Milwaukee, quoi.
C'est ça.
Donc en fait, ça l'a vraiment propulsé, puisqu'il y avait pas mal de doutes au niveau de Kyrie Irving, et ça l'a vraiment propulsé au rang où... Limite, des gens disaient que ouais, Kyrie Irving, c'est un top 5 meneur NBA.
C'est ça, et le constat, en fait, la question qu'on doit se poser, et c'est certainement une question qui fera plaisir à Madiane, de notre équipe, mais quelle est la carrière de Kyrie Irving avant et après LeBron James ? On sait qu'avant, c'est un joueur qui a été Rookie of the Year, qui nous a fait, on va dire, rêver un petit peu avec quelques highlights. On savait quel était un petit peu le potentiel du joueur, mais c'est pas un joueur qui faisait gagner son équipe et qui ne serait-ce que la faisait progresser. C'était vraiment très très compliqué. LeBron est arrivé, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire ensemble. Il a voulu prendre son envol et quelle est en fait sa situation après être parti de Cleveland. C'est en ça qu'on voit aussi encore qu'on en revient à ce qu'on se disait tout à l'heure, la capacité justement de LeBron à diffuser sur les autres.
Et puis en plus, il ressouffre d'une autre comparaison qu'Airy, puisque son échec à Boston est toujours mis en comparaison avec l'année surréaliste, si on veut, d'Isaiah Thomas juste avant. Tout à quoi. Fait. Et en plus, malheureusement pour Kyrie, c'est imaginons, si on se projette dans le futur, que les Nets Kyrie KD arrivent à un titre, et ben, il est très fort probable qu'il soit une nouvelle fois considéré comme le second couteau. Quoi.
Moi, je n'arrive pas à envisager en fait, Kyrie en tant que première option d'une équipe des Nets. Ou alors, vraiment, il faudrait que KD se remette très très mal de son tendon d'Achille.
Mais c'est ça qui a fait très très mal à Kyrie, c'est ce passage à Boston, comme tu dis, le juste après LeBron, où on se dit, il a appris de... Alors, ok, quand il était à Cleveland, il n'est pas allé très loin, il n'emmenait personne avec lui, mais il était jeune, il venait d'arriver dans la ligue, là, il a eu le temps de voir ce que faisait LeBron, de peut-être apprendre, et il a envie, il a demandé à partir pour devenir le leader. Donc ça veut dire qu'il a envie d'endosser cette responsabilité. On lui donne, comme tu dis, les clés d'une franchise et d'une équipe très prometteuse. Enfin, la franchise n'est pas prometteuse, la franchise est plus qu'installée, mais l'équipe est très prometteuse. Et là, bah, c'est son rite de passage, en fait. C'est-à-dire que soit il réussit à au moins faire un résultat, il n'est pas obligé de gagner à ce moment-là. C'est juste si, en play-off, comme tu dis, passe Milwaukee, déjà rien qu'il passe Milwaukee, le narratif est tout autre. On se dit, ah ok, ils ont réussi avec une jeune garde, ah bah peut-être que l'année prochaine ce sera mieux, etc. etc. Sauf que, il échoue, et là, tout de suite, tout lui revient dans la tronche sur t'as voulu faire le malin entre guillemets pour être le patron d'une équipe, t'es toujours pas capable de le faire, tu seras jamais capable de le faire, parce que tout va très vite, on le sait en NBA. Quand les gens commentent, on fait des conclusions très rapides et on oublie très vite ce qui s'est passé juste avant. Et le malheur de Kyrie qui le relie à KD, c'est qu'ils ont la tendance à exprimer leur mécontentement et leur frustration et à les exprimer d'une manière. Critiquable, on va dire, en tout cas peu réfléchi, ça semble manquer de recul à chaque fois, et ça joue très très fortement sur leur image derrière, et certains ne se privent pas d'avoir envie de les voir échouer aussi, ce qui rajoute à leur frustration, etc., etc., une espèce d'engrenage qui n'est pas évident du tout à gérer.
C'est ça, c'est un peu la différence aussi avec Stephen Curry, où lui, c'est un peu entre guillemets Mr. Nice Guy, quoi. C'est le gars passe-partout, limite tu veux le voir réussir, et tu vois, moi je trouve que généralement on est plutôt dur dans la façon de juger les performances de Stephen Curry en playoff, et notamment en finale NBA. Très, moi je trouve que les gens sont
les gens
durs.
Qui disent qu'ils choquent, ouais, ils ouais. ont pas regardé tous les matchs, c'est pas possible, on n'a pas vu la même chose.
C'est ça, moi je trouve que les autres très durs, par exemple.
Ouais, mais même tu vois, même l'année où Iguodala a le trophée, enfin il est quand même très très fort. Bon, après tu peux aussi ajouter à Iguodala que voilà, il devait se coltiner LeBron, et voilà, c'est quelque chose que certes ça va pas se voir dans les stats,
mais Curry souffre la comparaison de son de son côté très spectaculaire en saison régulière, et comme en playoff c'est un peu un jeu un peu différent, ça paraît moins éclatant et moins dominant qu'un LeBron par exemple.
C'est ça. Et tu vois, même tu vois, lui aussi il est vraiment fortement impacté par cette finale, hein, puisque si jamais ils ont le titre, déjà ces Warriors là, c'est difficile pour eux, parce que le soir où ils battent le record, tout le monde regarde le dernier match de Kobe. Donc on s'en fout littéralement.
Oui, c'est vrai, en plus.
On s'en fout littéralement de leur match face à Memphis. Même moi, j'ai pas regardé ce match-là, j'ai regardé le dernier match de Kobe. Alors que je suis fan de Memphis, tu vois. Même moi, j'ai pas regardé ce match-là. Et ensuite, ils arrivent en finale. Là, il a pas la validation, tu vois, parce que là, il aurait eu le trophée.
Oui, en
il aurait
plus,
été
oui,
MVP des finales, il aurait été MVP de unanime saison régulière, MVP des finales, à la tête de
meilleur bilan,
à la tête de la meilleure équipe entre guillemets de l'histoire, qui fait la meilleure saison de l'histoire globalement, puisque t'as le titre, tu reviens de 3-1 en finale de conférence et tu gagnes les finales NBA. Lui aussi, en fait, il en a plus pâti, puisque même après, avec l'arrivée de Kevin Durant, ça a enlevé du crédit à Stephen Curry. J'ai l'impression.
Bah, c'est le revers de la médaille, Tom. C'est-à-dire que, ok, ça te permet d'avoir, on va dire, une accession au titre NBA un petit peu plus simple, mais sur le plan purement individuel, vu la simplicité, justement, de l'accessibilité au titre, fait que forcément ça impacte, on va dire, le CV individuel. C'est la raison pour laquelle, justement, le titre de LeBron en 2016 change absolument tout pour lui et aussi pour d'autres, que ce soit Kevin Durant et Steph Curry, parce qu'il l'a fait dans des conditions totalement improbables, on va dire. Et justement, tu parlais en introduction, Adrien, de Last Dance. Moi, pour justement resituer un petit peu historiquement ce titre de 2016, moi j'estime, en toute modestie, que c'est très certainement et très clairement pour moi le titre le plus dur à aller chercher pour n'importe quelle superstar dans l'histoire de la Ligue. On a jamais vu, en fait, une star, quand bien même c'était la plus forte, c'est-à-dire qu'il est souvent arrivé que le meilleur joueur ne soit pas forcément dans la même équipe. Disons que Jordan avait placé d'autres standards, c'est-à-dire que c'était le meilleur joueur de la meilleure équipe, pas forcément de la saison régulière, mais de celle qu'on estimait comme favori. LeBron a pas toujours été favori. Paradoxalement, on va dire que la seule fois où il a été favori, il a perdu dans les grandes largeurs, et c'est ça un petit peu ce qui fait la carrière de LeBron James, c'est-à-dire qu'il est passé entre justement ce run de quelques années, de 2011 à 2016, vraiment de tout à rien. Et on va dire que ce Game 7 des finales NBA vient en fait parachever, on va dire, un petit peu son livre, même s'il n'est pas encore terminé. Il y a, je pense, encore quelques belles lignes à écrire avec les Lakers. Mais disons que LeBron, il est passé par plusieurs étapes, et il y a eu plusieurs matchs charnières comme ça dans sa carrière. Je pense que le premier de ces matchs était certainement ce fameux Game 5 à Détroit, pendant match pour lequel j'ai versé quelques larmes, mais j'étais quand même aussi admiratif de ce qui se passait. Donc, les 25 derniers points de son équipe, les 30 des 31 derniers points de son équipe, pour ensuite les emmener en finale et y perdre. Encore une fois, le contexte, évidemment, il se prend un sweep, mais au final, est-ce que ce n'est pas plus gratifiant et valorisant d'emmener son équipe en finale à 22 ans que de perdre au final face aux Pistons? Ensuite, il y a eu le fameux match où véritablement ce que je considère comme le match le plus important de sa carrière, le fameux match 6 à Boston en 2012,
aïe, aïe, aïe.
Le 45-15-5. Ensuite, il y a un autre match, mais qui est combiné, en fait. C'est justement la finale 2013, où il est beaucoup de gens disent que Ray Allen, cette année-là, a sauvé la carrière de LeBron. Alors que LeBron ramène le hit d'un moins 10 en début de quatrième quart-temps et qui met quand même le 3 points avant celui de Ray Allen, qui est donc quasiment aussi déterminant. Et ensuite, il y a le Game 7, donc il y a ce Game 6 et ce Game 7. Et pour parachever le tout, on va dire, ce Game 7 face aux Warriors, tout ça pour arriver à dire que c'est le titre pour moi le plus dur à aller chercher. Et même si je considère que, Michael Jordan comme étant le plus grand basketteur de tous les temps et quasiment inaccessible, il faut savoir que MJ a son 6-6 en finale, c'est-à-dire c'est acté. C'est quelque chose véritablement qui parle pour lui et qui souffre d'aucune contestation. Mais LeBron a pour lui quelque chose que Jordan n'a pas, selon moi, dans sa carrière, c'est-à-dire le fait d'être placé dans la peau du David opposé au Goliath, c'est-à-dire de pouvoir un petit peu bouleverser la tendance, bouleverser les pronostics, aller un petit peu renverser l'ogre qui était en face. Et on va dire que LeBron a quand même su le faire quasiment deux fois, parce que il a quand même battu en finale, selon moi, deux dynasties, c'est-à-dire qu'il y a celle des Spurs et il y a celle des Warriors. Et on va dire que ça, c'est son truc à lui, à LeBron James.
Il a toujours été dans la situation où il était Goliath, quoi.
C'est ça. Ouais, bien sûr. Mais disons qu'à l'époque où il était David, il se prenait des corrections.
Ouais, par les Pistons.
Par les Pistons, entre autres.
Ouais, non, mais on se focalise souvent sur ce point-là, que je trouve intéressant, sur les adversaires de LeBron ou de Michael, vu que c'est le sujet à ce moment-là, et assez peu sur leurs propres équipes, parce que... Effectivement, dans le narratif de LeBron James et de sa carrière, il a eu cette parenthèse au Heat, ce qu'il faudrait montrer à KD aussi d'ailleurs, cette parenthèse au Heat, puis retour à Cleveland. Donc il y a les deux passages à Cleveland qui remettent en valeur sa capacité à emmener les équipes, mais aussi donc il était le David, comme vous disiez, parce qu'il s'est retrouvé dans ces équipes-là. C'est difficile quand même de reprocher à Michael Jordan le bon travail de celui qui a été un peu mal dépeint, notamment dans The Last Dance, j'en profite pour en parler un peu, qui s'appelle Jerry Krause, et qui fait un travail extraordinaire, parce que 6 sur 6 pour Michael Jordan, certes, mais 6 sur 6 pour Scottie Pippen également. Donc,
Tout à fait, Adrien, et ce serait intéressant de se demander, par exemple, qu'aurait été la carrière de LeBron si, par exemple, entre guillemets, il n'avait pas perdu ses 7 premières années à Cleveland avec un staff qui n'a pas su lui ramener, on va dire, un lieutenant digne de ce nom, quoi. C'est-à-dire, moi, je vous pose la question, quel est le meilleur joueur que LeBron ait eu à ses côtés lors de son premier passage à Cleveland?
Bah, c'est Mo Williams
ou
Illy Gauskas, quoi. Mais,
Jimmy Sen.
Voilà. Donc on est d'accord, c'est 7 années en l'air. C'est-à-dire, lui, il a pris individuellement ses titres de MVP, il a fait ses stats, mais... Évidemment que tu peux pas avancer, évidemment que tu peux pas aller chercher les Celtics, voire même une équipe comme le Magic de Dwight Howard, et encore moins les équipes de l'Ouest qui pouvaient se dresser face à lui en finale s'il y retournait comme les Lakers ou les Spurs. Le meilleur joueur que tu as eu pendant toute cette première période, c'était Mo Williams. Dès l'instant où Jerry Krause a monté dans la draft en échangeant Holden Polini, c'est un second tour de draft contre Scottie Pippen, la carrière de Jordan a changé. Avant l'arrivée de Pippen, Jordan, il était à un bilan de 1 victoire et 9 défaites en playoff. Forcément, quand Pippen est arrivé, ils ont commencé à passer des tours, et après, bah, une fois qu'ils ont passé les Pistons et compagnie, bah, c'était parti, quoi. Les vannes étaient ouvertes et ils ont enchaîné 6 titres.
Non, mais on revient à l'importance de sujet du supporting cast, du second couteau en premier lieu, mais aussi tout le reste de l'équipe, que ce soit pour Michael ou pour LeBron. Et on peut aussi se poser la question, qu'est-ce qu'aurait été Michael s'il n'avait pas eu cette chose-là? Est-ce qu'à un moment, il aurait passé ces dynasties qui étaient sur la fin, les dynasties des Celtics de Bird et les fameux bad boys des Pistons? Parce que souvent, les défenseurs des Pistons, je pense que tu ne me contrediras pas, Elias, mettent en avant qu'effectivement, quand Michael finit par passer les Pistons, ce n'est plus, ils ne sont plus aussi dominants, ils ne sont plus au top de leur basket. Et donc, peut-être qu'il aurait
fallu dévaloriser.
Exactement, il ne faut pas le dévaloriser non plus. Et peut-être une chose qu'on peut mettre au crédit de Michael, et peut-être que LeBron n'a peut-être pas encore vraiment su faire, et n'ont pas su faire non plus les Warriors, c'est que quand tu es Goliath, tu ne perds pas. Tout simplement. Et tu ne perds jamais contre David. Non, mais voilà, c'est quelque chose d'aussi important dans la Legacy, c'est qu'il faut aussi savoir tout le temps gagner. Si tu perds alors que tu es Goliath, ça réduit aussi un peu ton impact.
Après,
c'est ce qui est arrivé aux Warriors.
Ouais, la Ligue a tellement changé entre-temps, disons qu'aujourd'hui, les mouvements se font beaucoup plus importants et sont beaucoup plus fréquents. C'est-à-dire que la face d'une franchise peut être bouleversée en un ou deux mouvements. Et forcément, si cette franchise change, la hiérarchie peut aussi être amenée à changer. Et donc, le statut de Goliath peut être vite ébranlé. Disons que le fait qu'il y ait eu une espèce de statu quo au niveau des équipes à cette époque-là, le fait que ça n'ait pas énormément bougé, a permis quand même aux Bulls, en plus avec leur longévité, le fait de se connaître. Après, il y a encore eu d'autres masterclass, hein, Adrien, tu sais. Le fait que Krause, parce qu'on oublie, mais, on a tendance à dire que quand Michael revient, c'est super, voilà, on monte souvent, par exemple, ses 55 points face aux Knicks, au Madison Square Garden, les buzzers qu'il a pu mettre face aux Hawks, etc., etc. On parle d'un Jordan encore extrêmement fort, malgré le fait qu'il ait eu un petit break. Il perd contre Orlando. C'est pas grave, Michael. Jerry Krause, qu'est-ce qu'il fait? Il prend Will Perdue, il l'envoie à San Antonio contre Rodman. Et bah forcément, là encore, la narrative change encore.
Clairement. Mais on s'éloigne un peu du sujet,
voilà,
pour regarder ce truc d'un côté. Non, mais il n'y a pas de souci, évidemment. On a tous eu aussi un peu envie d'en parler, forcément, de toute cette période-là, surtout en ce moment. Je ne sais pas, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose autour de ces finales 2016? Est-ce qu'il y a un sujet qu'on aurait
J'aurais bien lancé Tom sur l'impact sur le salary cap aussi.
Bah oui, puis bah, par rapport
Bah vas-y, Tom.
du coup par rapport au cap spike en fait, puisque le cap a grimpé d'un coup, et en gros Kevin Durant a été aspiré dans une espèce de vortex et qui l'a amené aux Warriors, et le vortex s'est refermé derrière lui et les équipes qui étaient derrière avaient que des mauvais choix en fait. Et c'est ce qui s'est passé où après ces finales-là en fait, on a l'impression que l'écart entre l'équipe favorite et le reste des équipes de la ligue, ben, il était vraiment très très grand, et ce qui a lancé des vagues en fait de reconstruction à tout va quoi.
Ah oui,
Après
ça c'est
2007,
sûr.
là et c'est là où on a eu aussi toutes les problématiques de gros tanking agressif, puisque les mecs se disaient, il y a les Warriors en haut,
C'est
ça
vrai.
sert
Ouais,
à
de toute
rien de
façon, on
viser cette
gagnera pas,
fenêtre.
donc
Voilà, ça sert à rien de
voilà.
viser cette fenêtre, de toute façon on gagnera pas.
Tim
Donc il y
Duncan a pris
avait,
sa retraite.
voilà, on a quand même prend
Oui, c'est
ça,
ça, il
ça
va
sert
pas
à
rater
rien
les
là.
finales de 2007.
Non, carrément. Donc, du coup, t'as eu une espèce de sentiment d'abandon, pardon, où les équipes se disaient, à part Houston, tu vois,
À part Houston,
pourquoi
qui est
lutter,
l'exception.
enfin, pourquoi lutter? Et même à l'Est, t'avais la frilosité des équipes à l'Est qui se disaient, de toute façon, on pourra pas passer LeBron, on garde tous nos assets pour quand LeBron sera pas là. Et à l'Ouest, les mecs se disaient, de toute façon, il y a les Warriors de l'autre côté, ça sert à rien de faire un move pour gagner maintenant, on gagnera pas. Tu
C'était un
vois? Mais c'est ça,
désespoir
les Mavs
total.
qui prolongent Dirk pour dire bon, on va continuer à faire une dernière danse avec Dirk.
C'est ça. Ça a totalement figé la ligue. Et c'est pas pour rien qu'on a quatre fois la même finale de suite. Ça a
Oui, c'est
littéralement
vrai.
figé la ligue où tout le monde est devenu frileux et tout le monde s'est dit, bon, ben, on attend que ces deux équipes-là sortent du chemin parce qu'elles sont trop fortes. Et du coup, tu as vu plein de stratégies de reconstruction agressive, du tanking. On vend nos superstars, on re-signe pas les mecs et on essaie de choper les hauts tours de draft. Ce qui a après donné lieu à la réforme, quoi.
Ouais, finalement, est-ce qu'on peut imputer une part de cette réforme à donc ce qu'ont fait les équipes et donc à cette finale de ces finales 2016 et la signature derrière de KD qui signe en plus pour 25 millions l'année, qui
Ouais,
ferme
parce
un petit contrat qui fausse tout, quoi.
qu'à l'époque, c'est quand même le maximum auquel il peut prétendre, mais c'est que lui, en fait, il décide de le prendre sur 2 ans pour se
Sur
donner un
2 ans, oui.
maximum de flexibilité, là où tous les role players qu'il y a après signent pour 4-5 ans. Alors là où les Warriors, eux, ils gagnent le meilleur joueur, plus la flexibilité de remodifier l'équipe un petit peu après, puisque son contrat n'est pas long, il s'évite le piège de signer Harrison Barnes au max et de matcher l'offre de Dallas.
Sacré piège.
Il s'évite ça. Et en plus, bah, toutes les équipes derrière, elles signent des role players sur 4-5 ans et ça fige littéralement la ligue. Sachant qu'on arrive en 2016 toujours, sur une draft qui est assez moyenne en fait, au final, et qui, bah, les équipes se sont dit, bon ben bah, écoutez, vu que la draft, elle est pas ouf, on va drafter des projets en se disant, on a de l'argent, on va signer des role players le temps que les joueurs draftés puissent après apporter leur pierre à l'édifice, et on sera prêt une fois que les Warriors ne seront plus là et les Cavs ne seront plus là. Et
Ouais, non, mais
malheureusement, ça
cette
s'est pas
NBA
passé comme
figée,
ça.
ouais, mais cette NBA figée aurait pu continuer encore très longtemps. Il aura fallu les shoots ratés de Houston et puis après les blessures de KD et Thompson pour que ça se défige avec le départ notamment de KD qui chamboule un peu tout le reste et donc ce titre des Raptors, ça aurait pu durer très très longtemps cette histoire-là.
Là, on a quand même une espèce d'accalmie à ce niveau-là. C'est vrai que on va dire que le talent est un petit peu plus dilué et on va dire que le côté favori s'est un peu lissé sur plusieurs équipes de la ligue. Maintenant, on sait que, enfin, ça s'était pas arrivé depuis longtemps, depuis que KD avait rejoint les Warriors et même avant qu'ils les rejoignent, on voyait tout le temps les Warriors en haut. On va dire que là, on peut clairement dire que et les Lakers, et les Clippers, et les Bucks, avec peut-être une ou deux équipes en léger retrait, peuvent accéder au titre. Alors que, il y a encore 2 ans, on disait c'est les Warriors et personne d'autre.
Ouais, si, sauf blessé, tu disais ouais, les Warriors.
Voilà,
Les
évidemment.
Warriors ou LeBron James,
Les
il y a
Warriors ou
toujours
LeBron.
Voilà, depuis ces finales, moi, il y a toujours LeBron James à la fin des pronostics de gagnants. Bah écoutez, je pense que c'est bien. On aura fait un bel épisode 210. On aura fait le tour, je pense, des principales conséquences. On aura fait quelques petites parenthèses historiques en plus autour de ces finales 2016. Ceux qui nous ont écoutés, déjà merci beaucoup. Si vous avez des choses à ajouter, si vous voulez échanger avec nous, venir nous voir sur les réseaux sociaux, sur Twitter principalement, n'hésitez pas bien sûr. Comme d'habitude, vous retrouvez bien sûr tous les podcasts sur les plateformes d'écoute, sur Spotify, Apple Podcasts, Podcast Addict, etc. N'hésitez pas donc à aller écouter le dernier épisode, puis aussi le dernier podcast de Coach Pierre, dernier Up and Thunder. Il y a eu un invité exceptionnel, c'est Eric Horn de The Athletic. Alors, c'est un podcast qui est en anglais. Mais si ça vous gêne pas, vraiment allez jeter une oreille, c'est vraiment incroyable, c'est du haut niveau ce que propose Pierre. Donc voilà, on lui fait une petite promotion, c'est très très mérité. Et bien nous on va se donner vite rendez-vous pour un prochain épisode. Merci beaucoup messieurs d'avoir été là.
C'était sympa.
Merci à toi.
Merci les gars, ciao.
Passez une bonne semaine. Ciao.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.